dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs. En fin d'émission, nous retrouverons Elsa Dauphin et sa chronique poélytique.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
En octobre 2016, la jungle de Calais est démantelée. Les 6486 migrants sont disséminés dans divers centres d'accueil et d'orientation en France. 25 de ces jeunes migrants, tous mineurs, sont venus au centre d'accueil et d'orientation de Pont-Salard en Aveyron pour quelques mois.
Ce centre est situé à la base nautique gérée par la Ligue de l'enseignement. L'équipe de Dissonance a aussitôt choisi de traiter ce sujet pour essayer de faire découvrir aux auditeurs le quotidien de ces jeunes mineurs, leurs interrogations sur leur devenir, leurs espoirs et leurs craintes.
Nous avons rencontré l'équipe d'adultes qui allait encadrer ces 25 jeunes mineurs, tous originaires du Soudan, durant leur séjour en Aveyron. Au départ, notre souhait était de s'intéresser à ces jeunes.
Mais très vite, notre attention s'est tournée vers l'équipe des encadrants, et notamment de son directeur, Laurent Garou. La manière qu'il avait d'aborder ces mineurs nous a impressionnés tout au long de nos visites, entre novembre 2016 et février 2017. Son humanisme a imprégné toute l'équipe du centre, jusqu'aux moindres attentions, y compris les menus élaborés et préparés par une personne extraordinairement généreuse, Françoise. Elle a mis un point d'honneur à ce que les moments des trois repas quotidiens soient une fête pour leur papille. Et si elle avait bien voulu parler dans le micro, vous auriez ressenti sa générosité, sa disponibilité et son écoute.
À l'image d'Emeline, animatrice, qui résume très bien en quelques mots la philosophie de l'approche de toute l'équipe du centre d'accueil de Pont-Salard.
Alors bonjour, mais moi je suis Emeline Duplex, je suis éducatrice spécialisée de formation et donc je suis sur la mission du CAOMI de Pont-Salard, donc un centre d'accueil d'orientation de mineurs isolés, donc depuis maintenant le 2 novembre. Alors nous on est sur une mission de mise à l'abri de ces jeunes-là où sur les premiers jours on était beaucoup sur une fonction de... avoir un toit, avoir un lit, pouvoir avoir avoir un pull, pouvoir se tenir au chaud, ou sur aussi de toute la question du bien-être, est-ce que ça va, et aussi toutes les premières approches qui étaient pas simples de rentrer en contact vu que quand même on parle pas de la même langue, où ils parlent arabe et donc nous on a quand même que très très peu de notions d'arabe, voire que quelques mots. L'idée, c'est aussi pouvoir donner des repères dans la journée et aussi parce qu'à travers ces repères-là, on peut poser un cadre sécurisant pour eux et leur dire que, en fait, quoi qu'il arrive, il y aura trois repas par jour à ces horaires-là et que aussi dans ce respect des règles-là où ils vont être également amenés à vivre en société. Après, nous, l'idée, c'est pas de les normaliser comme nous, on fait à l'occidental, mais en tout cas d'avoir ce repère-là pour qu'ils puissent s'inscrire dedans. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent de à quoi on sert ici et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et un peu de nos premières choses, c'était on leur amène du sourire.
Aujourd'hui, à travers les témoignages de Laurent Garou, enregistrés tout au long de ces trois mois d'hiver sur le Lévezou, nous partagerons sa joie de voir partir certains de ces mineurs rejoindre leur famille en Angleterre, mais aussi sa déception pour ceux à qui ce rêve a été refusé.
Aujourd'hui, nous découvrirons l'évolution de l'équipe du centre d'accueil qui nous a très vite fait comprendre que ces jeunes migrants étaient avant tout des ados qui avaient besoin de repères sécurisants.
Avec Laurent, avec Françoise, avec Emeline et tous les autres, nous découvrirons leur fonctionnement face à ces enfants aux blessures invisibles. Confrontés à ces jeunes migrants mineurs, ils se sont donnés sans compter pour que ces enfants se sentent accueillis et puissent envisager l'avenir.
Il se partage en cela l'avis de José Palasson de l'ONG Prodein, qui lutte depuis 1999 pour la défense des enfants migrants dans l'enclave espagnole de Melilla, sur les côtes marocaines.
La solution passe par l'introduction de standards européens pour l'accueil des enfants. Si vous les scolarisez, si vous leur donnez des papiers, si vous les traitez comme des enfants, ils ne partiront pas du centre. Mais si vous faites tout le contraire, si. Comme je vous le disais, l'administration de Melilla fait tout pour qu'ils partent. Elle les considère comme des ennemis, ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des enfants. La solution est de leur donner l'attention dont ils ont besoin, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Allemagne. C'est quand même incroyable de voir que l'Europe des droits de l'homme n'est pas capable de s'occuper un tant soit peu des enfants. C'est le scandale du siècle.
Ils sont marrants les êtres, vous tout comme moi, moi tout comme vous. Et c'est pas du théâtre, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants les êtres en entrant chez les autres. Il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit vous tombez bien, et on lui offre à boire et une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez retombe dans l'escalier, l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui, et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres, ils tombent toujours, ils tombent comme la nuit, et se lèvent comme le jour.
Dissonance,
Laurent Garraud, sur Radio Sainte-Afrique. Novembre 2016. Nous nous rendons à Pantsalar, rencontrer Laurent Garraud, le directeur de la structure, qui va devenir centre d'accueil pour 25 jeunes migrants soudanais arrivés de Calais.
Laurent Garraud, donc, je dirige la structure Lance du Lac, gérée par la Ligue de l'enseignement de l'Aveyron depuis 11 ans maintenant. Effectivement, depuis le 23 novembre, on accueille 25 jeunes soudanais qui étaient tous à Calais précédemment, depuis plus ou moins longtemps. Et voilà, ils sont arrivés le 3 dans la nuit ici, accompagnés en bus par quelques interprètes anglais.
Et c'est la préfecture, l'État.
Et donc c'est les services de l'État qui effectivement nous avaient sollicité. Alors dans un premier temps nationalement, toutes les associations telles que les nôtres avaient été sollicitées en demandant s'il y avait des potentiels d'accueil sur nos structures qui parfois sont fermées pendant les périodes octobre à mars. Et départementalement aussi, on avait été sollicité par la DDCSPP de l'Aveyron. Et la Ligue de l'enseignement avait répondu oui, nous pouvons accueillir sur deux chalets une trentaine de personnes. Voilà.
Et tu peux nous parler de ces personnes ? Qui sont-elles ? D'où viennent-elles ?
Alors, parler des jeunes, je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'on n'en sait pas beaucoup. On sait qu'elles sont toutes, a priori, du Darfour. Et qu'elles ont toutes fui le Darfour pour des raisons inhérentes à leur intégrité physique, la situation au Darfour étant toujours difficile, et parfois les familles ont préféré que les jeunes soient éloignés de ce climat de guerre, et voilà, et tous sont passés plus ou moins par la Libye, l'Italie, en train, en bus, à pied, voilà, ont vécu pour certains des situations difficiles dans ce périple-là. On parle de torture, on parle d'achat de gens, notamment. Et voilà, donc depuis qu'ils sont arrivés ici, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent se poser et envisager un avenir un peu plus radieux pour eux, ici ou ailleurs, mais en tout cas de pouvoir le faire dans les meilleures conditions qu'à Calais. Alors au quotidien, mon rôle, je suis directeur de la structure, donc j'ai tout le travail habituel de directeur sur la partie administrative, on nourrit ces jeunes quotidiennement, donc tout ce qui est commande alimentaire, etc. Et ensuite il y a une équipe de 9 personnes qui travaillent avec moi, qui sont tous ou animateurs ou éducateurs spécialisés.
Quelles sont vos espérances ou vos attentes ?
Nos espérances, on est un peu utopiste tous, je pense, donc on espère que tous vont pouvoir partir là où ils veulent aller, à savoir pour une partie certainement en Angleterre, d'autres peut-être rester sur le territoire français, mais surtout on espère que tous ceux qui ont de la famille et qui espèrent depuis Calais pouvoir passer en Angleterre, ben, on espère que les différents États, anglais et français, vont faire en sorte que ça puisse se faire. Sachant qu'on n'a pas de certitude, évidemment. On ne sait pas, même si un bel effet d'annonce a dit oui, les Anglais prendront les mineurs s'ils ont de la famille, on ne connaît pas exactement précisément les conditions de réalisation de cet accueil-là. Donc peut-être que certains jeunes ne seront pas accueillis en Angleterre, peut-être certains seront obligés de rester sur le territoire français, et notamment ceux qui n'auraient pas de famille en Angleterre, pour eux ça semble déjà un peu compromis.
Il resterait en Aveyron ou il repartirait ailleurs?
Alors là, on n'a pas de réponse. On va travailler avec eux et avec l'association la Pantarel qui s'occupe de la partie administrative de l'accueil sur un projet pour les jeunes qui ne pourraient pas quitter la France pour l'Angleterre. En Aveyron ou ailleurs, ça, on n'a pas de réponse encore pour l'instant.
Pendant la journée, que font ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur proposez?
Que font ces jeunes? Alors on a réussi, la solidarité a bien fonctionné puisque... On a eu pas mal de propositions de gens pour nous aider à faire des cours de français, des cours d'anglais. Et puis moi, toute l'équipe est globalement une équipe en capacité de mettre en place des animations sportives ou culturelles. Donc voilà, ils ont fait de la vidéo, on a fait une soirée à thème soudanaise avec un anniversaire. On a fait, avec une intervenante, ils ont fait de l'art plastique. Voilà, on sort aussi également un peu de la structure. On a fait une rando il n'y a pas très longtemps. On est allé sur Rodez faire des activités de loisirs.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Alors l'accueil a été, à l'annonce de l'arrivée de migrants, l'accueil a été mitigé, comme je pense ça peut l'être partout, à savoir une partie des gens disant « ouais c'est bien, c'est important que ce soit fait, c'est pas normal que ces gens vivent des situations pareilles ». Et on a eu aussi des réactions de franche opposition, voire de menaces. Hein, sur Facebook, on a été clairement menacés de nous pendre au premier platane venu. Heureusement, on n'a pas de platane, donc on est tous encore là. Mais voilà, donc les gens étaient... Pour certains, je pense, avaient peur, parce que peur de l'inconnu, voilà, on ne sait pas qui sont ces gens, d'où ils viennent, ils sont étrangers, voilà, mais de la même façon, peut-être que quelqu'un qui arrive dans un village est regardé comme un étranger, puisqu'il n'est pas né ici. Après, les manifestations de cette peur-là étaient diverses, mais en discutant, j'ai l'occasion de beaucoup parler avec les gens dans le village, et voilà, maintenant qu'on sait en plus que c'est des mineurs, donc la crainte est différente. Évidemment, avec tout ce qui était véhiculé dans la presse, on avait... Les réactions qu'on entend sur toutes les chaînes de télé en disant c'est peut-être des terroristes, c'est peut-être des violeurs d'enfants, c'est peut-être etc. etc. Donc on a eu droit à tout ça. Et là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu vraiment d'informations ou de discussions qu'on a pu entendre ou lire sur une quelconque menace ou sur des réactions. Je suppose qu'il y en a encore, je ne vais pas sur Facebook pour le savoir, mais... Nous, dans le village, ça se passe bien. Et puis le fait que ce soit des mineurs aussi a sans doute permis que les gens se disent « Bon, finalement, ça reste que des enfants. » Donc le « danger », entre guillemets, est peut-être éloigné.
Donc ça fait 19 jours que ces enfants sont là.
On se rend compte que les jeunes sont maintenant un peu posés ici et peuvent commencer à réfléchir à la suite. Ils commencent en gros à s'ouvrir un peu. On commence à savoir un petit peu leur histoire, comment ils sont arrivés ici. Parce qu'on en a eu besoin, et l'association La Pantarelle en a eu besoin pour la suite de leur dossier, mais aussi parce que certains commencent un petit peu à parler. On commence à pouvoir échanger de temps en temps en français, très souvent en anglais, et on a la chance d'avoir, encore une fois, fait appel, et la solidarité a bien fonctionné encore, puisqu'on a des gens qui viennent, qui parlent l'arabe couramment, et qui nous permettent d'échanger là, et d'avoir des certitudes de compréhension, ce qui n'était pas le cas au démarrage. Les jeunes sont moins sur la défensive. Voilà, on commence à pouvoir faire des choses avec eux, à pouvoir projeter un petit peu, à dire voilà, là vous avez rendez-vous pour telle animation ou pour telle, telle visite à l'extérieur, etc. Et c'est plutôt positif pour nous, puisque on n'est plus seulement gardien d'un groupe là, mais animateur réellement, et on peut proposer des choses et qui fonctionnent.
quand tu parles de gardiens, ils ne sont pas en prison.
Ils sont absolument pas en gardien. Quand j'étais gardien, c'est qu'au départ, ben forcément, eux ne nous connaissant pas et nous ne les connaissant pas, on a eu un petit temps d'adaptation les uns avec les autres, voilà, tout à fait normal, où on n'avait pas l'occasion de mettre en place ce qu'on est capable de mettre en place, des animations éducatives, de loisirs ou des cours. Ça a pris un petit peu de temps. Et là, maintenant, on a des jeunes qui sont présents régulièrement, pour certains ont une réelle envie d'apprendre l'anglais ou le français, et sont quasi présents systématiquement dès qu'il y a cours. Et maintenant, voilà, on a une autre relation avec eux. Il me semble que la confiance commence à s'installer, et que du coup, on peut travailler réellement et les accompagner encore mieux, puisqu'on est là, nous, pour les aider, et ils ont maintenant compris ça. Ça a été aussi un peu long, puisqu'il a fallu d'abord trouver des gens pour traduire, et que les jeunes acceptent l'aide qu'on voulait leur apporter, ce qui n'était pas simple, évidemment, pour eux. Je pense qu'ils ont dû rencontrer des tas de gens qui leur ont promis monts et merveilles. Nous, on n'a rien promis, on a juste dit qu'on était là pour les aider. Il semble qu'ils acceptent l'aide maintenant.
Et vous les avez en charge jusqu'à fin mars, c'est le contrat passé avec l'État ?
En théorie, ils peuvent être là jusqu'à fin mars, oui. On espère que leur situation va s'améliorer avant ça, que notamment le fait d'avoir rencontré les fonctionnaires de l'immigration anglais, les dossiers vont avancer. Après, ça reste un dossier administratif, donc avec toutes les lenteurs, logiques ou non, de ce type de dossier-là.
Personne ne quitte sa maison, à moins que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin. Tu ne cours vers la frontière que lorsque toute la ville court également, avec tes voisins qui courent plus vite que toi. Le garçon avec qui tu es allé à l'école, qui t'a embrassé, ébloui, une fois derrière la vieille usine, porte une arme plus grande que son corps. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire, jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou. Et même alors, tu portes encore l'hymne national dans ta voix quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en sanglotant à chaque bouchée de papier, pour bien comprendre que tu ne reviendras jamais en arrière. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre ferme. Personne ne se brûle le bout des doigts, sous des trains, entre des wagons. Personne ne passe des jours ou des nuits dans l'estomac d'un camion, en se nourrissant de papier journal, à moins que les kilomètres parcourus soient plus qu'un voyage. Personne ne rampe sous un grillage. Personne ne veut être battu, pris en pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés ou la prison, à moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite, de laisser tes habits derrière toi, de ramper à travers le désert, de traverser les océans, noyer, sauver, avoir faim, mendier, oublier sa fierté. Ta survie est plus importante.
Dissonance.
Laurent Garou sur Radio Centrafrique. Décembre 2016, il neige sur Pont-Salar.
Il s'est passé quelque chose, bien sûr, puisqu'on attendait une réponse qu'on espérait positive pour nos jeunes pour leur départ en Angleterre, et que ça y est, 10 d'entre eux ont obtenu le sésame tant attendu, un départ en Angleterre lundi dernier à 5h du matin au départ de Marianne. Donc 10 sont déjà en Angleterre depuis presque une semaine, et pour les, évidemment, c'était une matinée et un week-end qui a précédé leur départ assez festif dans leur tête. Beaucoup de joie, beaucoup de sourires, beaucoup de rires, évidemment. Et pour les autres, un petit peu moins, mais malgré tout, on a senti un peu de solidarité entre eux en disant « chouette, tu peux partir, moi je reste, mais toi tu pars, c'est une bonne chose ». Ça s'est fait vraiment dans le week-end. On a appris le vendredi qu'a priori c'était bon, les dossiers étaient bouclés et qu'ils devraient partir. Mais comme dans tout ce dispositif depuis le départ, les infos arrivent vraiment au compte-gouttes. Et c'est uniquement dans le week-end que j'ai eu de la préfecture la confirmation d'un horaire de départ. Et on a pu dire aux jeunes, c'est bon, tu peux préparer tes bagages. Lundi matin, 5h, tu prends le bus et tu vas prendre l'avion ensuite pour l'Angleterre.
Est-ce que vous allez garder des contacts avec ces jeunes ? Tu sais pas ?
On a déjà eu des contacts parce qu'ils avaient plus ou moins tous un téléphone et par tous les moyens modernes de communication, on les a vus en direct de Londres pour les deux qui n'étaient pas encore arrivés dans leur famille, mais qui étaient déjà sur le sol anglais, qui nous ont donné des nouvelles. On dit voilà, on attend que la famille puisse nous récupérer, ça ne saurait tarder.
Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les enfants qui restent ici ?
Il y a un peu d'espoir. Beaucoup non. Il y a voilà, l'État a redemandé aux Anglais s'il n'y avait pas moyen de réétudier une dizaine de dossiers sur les 25. On attend une réponse normalement pour la semaine prochaine. Après, c'est voilà, on sait que c'est pas nous qui décidons, c'est bien les Anglais. Et s'ils ont décidé d'en prendre qu'un tiers, ils n'en prendront qu'un tiers certainement. Il y a d'autres solutions. Ça, c'est la première démarche. C'est voilà, les Anglais acceptent. Ensuite, pour eux, il y a aussi d'autres solutions dans un futur plus ou moins proche. De demander un rapprochement familial, de demander l'asile ensuite, etc. Donc c'est pas totalement perdu pour tous. Pour certains, oui, ceux qui n'ont pas de famille, c'est certains qui ne pourront pas partir, en tout cas en tant que mineurs en Angleterre, donc vont forcément rester sur le territoire français.
Et la vie au centre continue pareil avec les animations, ou il y a une différence? Tu as noté quelque chose qui a changé?
Ah, il y a une petite différence, on a senti là, après le départ des 10, un peu moins d'entrain chez les jeunes, un peu moins de participation sur les activités, et puis... voilà, un petit moment de tristesse, parce qu'on est content pour les copains qui sont partis, mais et nous. Heureusement, on a régulièrement des rencontres avec les services de l'État, et mardi dernier, on a pu les informer justement des différentes opportunités pour eux. Si la première n'est pas bonne pour eux, il y a d'autres solutions. Donc ça a permis de stabiliser un peu le groupe et de dire voilà, c'est pas encore perdu. Il faut encore attendre, évidemment, mais malgré tout, il y a un peu moins d'entrain. Là, on espère que ça va se relancer. On a pu discuter avec quelques-uns, dire voilà, oui, c'est long, oui, c'est compliqué, oui, pour certains, vous n'allez pas partir, mais du coup, si vous ne partez pas, peut-être que pour vous, faire des choses, ça peut être important pour que ce temps-là d'attente soit moins difficile, que vous soyez moins à gamberger sur votre propre situation, et qui est difficile, et pour certains, extrêmement difficile.
C'est une longue vague, ample, lente, profonde, qui vient battre nos côtes et meurt sur les galets. Elle arrive de loin, entendez-la qui gronde, quelle force pourrait arrêter la marée. Entassée sur le pont, étouffant dans les cales, de vieux rafiaux rouillés, qu'un rien fera sombrer. C'est une foule immense d'humains tremblants et pâles qui s'offrent à la mort pour tenter d'exister. Il s'appelle Ibrahim Rachid Makodou, elle, c'est Jamila la belle ou Fatima. Elles ont contre leur sein des enfants aux yeux doux, des enfants juste nés qui ne comprennent pas. Eux, bras dressés, supplient le ciel noir et cruel, leur bouche n'est qu'un cri où résonne l'effroi. La houle les secoue, les gouffres les appellent. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Pas dire que nous n'avons pas vu les villages rasés et les vieilles en larmes, les yeux hallucinés, les haillons, les pieds nus, avec dans le lointain le grondement des armes. Voilà ce qu'ils ont fui par dunes et pierrailles, pour d'autres c'est la fin, qu'en savons-nous ici? La fin, sorcière noire, où faut-il donc qu'ils aillent? Ce n'est pas cœur léger qu'on engage sa vie. Et nous, voyant venir cette pure souffrance, nous laissons aboyer les bâtisseurs de haine. Les bâtisseurs de murs aux vieilles idées rances qui sentent la charogne et les brumes anciennes. Et nous baissons les yeux, cœurs et portes fermées. Que dira-t-on de nous dans 100 ans, dans 20 ans? Eux suivent leurs chimères acharnées harassée. Et la nuit descend sur un monde indifférent.
Dissonance.
Laurent Garraud sur Radio Centrafrique. Janvier 2017. Laurent nous donne des nouvelles de ceux qui sont partis en Angleterre, mais nous parle surtout du désarroi de ceux qui restent. Excédé, un d'entre eux a décidé de tenter sa chance tout seul. Parti à pied de Pont-Salard, il donnera de ses nouvelles une fois arrivé dans un pays de l'Europe du Nord.
Alors effectivement, en décembre, certains, 10 sont partis en Angleterre. Pourquoi ces 10 là, on n'a aucune réponse, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, 10 ont pu partir début décembre. Les 15 autres sont restés là, avec de la joie pour leurs copains dans le cœur et un peu d'inquiétude, un peu de tristesse pour eux, évidemment, parce qu'ils ne savent pas, et nous non plus, pourquoi 10 sont partis et pourquoi 15 sont restés. Alors, on imagine, ou j'imagine moi, que la décision est plus politique qu'humaine depuis le départ, donc on a juste... découper un groupe de 1600 en 4 et les Anglais en ont pris un quart et ont gentiment dit aux Français de garder le reste pour eux. C'est mon analyse perso qui n'engage évidemment que moi, mais voilà. Ce qui est pour moi un peu dramatique, c'est qu'on n'ait pas d'éléments précis. Je pense que chaque jeune peut comprendre les réponses qui sont données quand les réponses sont claires. Là, on n'a pas eu de réponse claire à leur donner et ça a été difficile après le départ des 10. On a eu un épisode un peu difficile avec eux parce qu'ils avaient du mal à comprendre que nous, alors qu'on s'occupe d'eux au quotidien, on n'ait pas de réponse précise à leur donner. Ça, c'était très difficile et pour eux et pour nous, évidemment. Et on a eu des situations délicates d'absence de communication parce que je pense que les jeunes avaient le sentiment que on n'était pas honnête avec eux, malgré nos discours et le discours des institutions qui sont présentes auprès de nous, qui ont toujours dit depuis le départ, on a des réponses, on vous donne des réponses. Si vraiment on n'a pas de réponse, c'est que les Anglais ne nous donnent pas de réponse. Et ça, c'était très compliqué à faire comprendre à l'ensemble des jeunes. Pour eux, les Anglais sont venus, les ont interrogés. Maintenant, ils doivent pouvoir partir en Angleterre, parce qu'ils ont répondu à toutes les questions. Sauf qu'on ne savait pas quelles étaient les conditions réellement. On entendait dire qu'il fallait avoir de la famille plus ou moins proche. Alors dans le plus ou moins, on peut entendre tout ce qu'on veut. Au final, on a cru comprendre que la famille proche, c'était vraiment père, mère, frère, sœur, oncle à la rigueur. Au-delà de ce lien de parenté, les cousins, ou etc., ça ne semblait pas être une solution pour pouvoir partir si on n'avait qu'un cousin. Et ça, dans la tête d'un ado qui arrive du Soudan, c'est parfaitement incompréhensible. La famille, c'est la famille. Il n'y a pas plus ou moins de la famille. Mon cousin, c'est ma famille, comme mon oncle, comme mon père, c'est ma famille. Donc je veux rejoindre ma famille. Et du coup, il y a parfois des situations un peu compliquées avec des jeunes qui ont voulu partir, mais qui se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être pas une bonne solution. On en a quand même un qui est parti. Sur les 15 qui restaient, il y en a un qui... mi-décembre, nous a dit clairement, moi je vais pas rester là, les réponses que vous me donnez ne me conviennent pas, et je vais tenter ma chance tout seul. Malgré voilà nos discours d'adultes responsables, en disant, mais oui, mais tu comprends, il va faire froid, ça va être difficile, etc. On sait pertinemment que c'est pas ça qui arrête ces jeunes-là, ils ont fait un voyage tellement difficile depuis le Soudan que partir sur les routes de France, c'était pas un souci. Donc il est parti mi-décembre, nous on a mis en place le procédé, la procédure qui était prévue. On a mis en place donc la procédure qui était prévue, appeler les gendarmeries, prévenir les services de l'État, et personne ne l'a retrouvé, et on a appris qu'il était a priori maintenant arrivé aux Pays-Bas, qu'il était dans un centre un peu comme Calais, on va dire, voilà, plus un camp de réfugiés que réellement un centre d'accueil comme ici. Mais c'était son choix, et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le laisser partir, et sa décision, on devait la respecter, parce qu'il n'avait pas d'autre solution pour lui, et entendre ou attendre encore sans avoir de réponse réellement claire, pour lui c'était trop long. Voilà, c'est un jeune, c'est un ado, il a besoin de réponses maintenant, il les a pas eues, Et malgré tout ce qu'il savait des difficultés qu'il allait rencontrer, son choix était de partir par ses propres moyens. Et nous, on n'est pas un centre, on n'est pas un centre fermé, on n'est pas une prison. Donc même si on lui a conseillé de rester, on a proposé des solutions différentes, enfin nous, les services de l'État ont proposé des solutions pour ces jeunes, il a tout entendu, et malgré ça, il a dit « Non, ça ne m'intéresse pas vos solutions ». Alors ces solutions-là, c'était la première de contester la décision des Anglais, en faisant une lettre, voilà, donc on a fait venir notre traducteur pour assurer la réalisation de ces courriers-là, expliquant qu'on a bien de la famille en Angleterre et qu'on réfute la décision anglaise, qui a été une non-réponse pour moi, puisqu'ils ont simplement fait une liste en disant, en face du nom des jeunes, non accepté ou majeur. C'est pas nous, on attendait une décision un peu plus motivée, c'est ce qu'on nous avait fait comprendre, mais encore une fois, je pense que les informations sont tellement peu distillé de façon claire, que personne, ni même les services de l'État, n'avait vraiment la certitude que les Anglais répondraient. Il faudrait une lettre motivée de réponse aux jeunes disant ben voilà, on ne t'accueille pas en Angleterre pour telle raison. On avait espéré ça et on avait craint ça aussi. On espérait en se disant ben, au moins les jeunes peuvent entendre, en disant ben voilà, je ne peux pas aller en Angleterre pour l'instant parce que la raison invoquée est celle-ci. Je l'accepte pas, mais je suis en capacité de comprendre. Mais on craignait aussi que la réponse soit « tu ne peux pas aller en Angleterre parce que la famille que tu as en Angleterre refuse de t'accueillir ». Et ensuite, la deuxième solution, c'était la demande d'asile en France, qui est possible pour des mineurs. Il a fallu facilement 15 jours pour que commence à se dire que finalement, c'était peut-être pas la pire des solutions. Comprendre que demander l'asile en France, c'était pas rester en France, c'était juste être dans une situation légale en France, avoir un papier qui permet de circuler et qui permet de circuler en dehors de France également.
Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Et toutes ces subtilités ou tracasseries, je ne sais pas trop de quel côté on doit regarder les choses, administratives, encore une fois, sont parfaitement incompréhensibles. Pour nous, c'est déjà compliqué. Pour ces jeunes qui ont subi mille et un, voilà, qui ont souffert pour leur déplacement depuis le Soudan, leur dire que vous ne pouvez plus aller en Angleterre, les Anglais ont dit stop, mais par contre, il y a peut-être une autre solution pour y aller. Déjà, on est dans l'incompréhension. Soit je peux y aller, soit je ne peux pas y aller. Pour eux, c'était compréhensible que comme ça. Pourquoi je ne peux pas y aller alors que certains y sont allés? Maintenant, vous nous dites que c'est plus possible, mais que c'est encore possible. On ne comprend pas, donc on ne comprend pas et on peut pas dire oui à ce que vous proposez parce qu'on ne comprend pas. Vraiment, malgré les explications faites par un traducteur, on n'arrive pas à visualiser ce que ça peut donner cette nouvelle démarche-là pour aller en Angleterre, qui n'en est peut-être pas une, voilà. Donc au moins, je pense qu'un jour, un peu de flou, à pas trop savoir ce qu'ils allaient faire. Et finalement, il y en a quand même trois qui ont accepté. Ils ont fait une lettre de contestation, mais ils ont aussi demandé l'asile en France. Et à partir de là, les rouages de l'administration se sont mis en place pour eux. Et ils ont compris que, voilà, encore une fois, ils ont compris, je pense, à ce moment-là, que ce qu'on disait depuis le départ, que nous, on est ici à gérer le quotidien, que les services de l'État sont en lien avec d'autres services de l'État au niveau national, qui eux sont en relation avec les Anglais, et que la descente des informations, elle se fait comme ça. Ils ont enfin compris à ce moment-là que si on disait rien, c'est pas parce qu'on voulait pas, c'est parce qu'on ne savait pas. Et à partir de là, on a retrouvé un groupe un peu plus serein, qui, je pense, nous fait un peu plus confiance maintenant, même si avant, je pense pas qu'ils étaient dans l'absence de confiance, mais dans l'interrogation, est-ce qu'on nous dit réellement tout? Est-ce que en fait, on veut pas simplement nous faire rester ici? Puisqu'on ne nous donne pas de réponse. Quand est-ce qu'on part en Angleterre? Pas de réponse. Est-ce qu'on va partir? Pas de réponse. Je pense qu'il y avait un peu ce sentiment-là, qu'ils sont bien gentils, tous ces gens qui viennent là, et on a vu un changement d'attitude envers les représentants de l'État. À partir du moment où les démarches ont commencé à être mises en place, ils les ont invités à venir manger avec eux, ce qui ne s'était jamais fait pour l'instant, et ils ont entendu les réponses, et certains donc ont accepté la demande d'asile, les choses sont en cours, ils vont partir là dans pas longtemps, et ceux qui ne l'ont pas fait vont être pris en charge par les conseils départementaux, alors a priori beaucoup en Aveyron. Et pour l'instant, conseil départemental, des travailleurs sociaux qui vont travailler eux, en dehors d'ici, puisque la prise en charge pour nous va se terminer là maintenant, à la fin du mois de janvier.
Celui qui marche d'un pas lent dans la rue de l'exil, c'est toi, c'est moi. Regarde-le bien, ce n'est qu'un homme. Qu'importe le temps, la ressemblance, le sourire au bout des larmes, l'étranger a toujours un ciel froissé au fond des yeux. Aucun arbre arraché ne donne l'ombre qu'il faut, ni le fruit qu'on attend. La solitude n'est pas un métier, ni un déjeuner sur l'herbe, une coquetterie de bohémien. Demander l'asile est une offense, une blessure avalée avec l'espoir qu'un jour, on s'étonnera d'être heureux ici ou là-bas. Tanger, 7 octobre 2007.
Le quotidien au centre, il a retrouvé encore une fois un peu de sérénité. Les jeunes ont compris que finalement, rester en France, c'était pas leur vœu, mais que c'était peut-être la solution provisoire la moins mauvaise pour eux. Et du coup, on a repris des cours de français, on reprend... Il y a toujours des cours d'anglais, mais le français marche également. Certains ont téléchargé des applis pour apprendre le français sur leur téléphone. Et du coup, la vie quotidienne a repris un peu son cours, avec des activités de temps en temps, etc. Et une ambiance plutôt sympathique, qu'on avait un petit peu perdue à un moment donné, où là, le départ des 10 premiers, ça avait malgré tout un impact assez important sur la vie ici, sur l'ambiance. Puis il y a eu des changements d'équipe également, à partir de mi-décembre, une bonne partie d'équipe a changé. Donc il y a eu un renouvellement qui a été aussi intéressant, parce que les gens étaient, à mon avis, eux aussi, arrivés au bout un peu de leur capacité à gérer. Parce que malgré leur formation pour certains d'éducateurs spécialisés, ils n'avaient pas forcément ce type d'expérience-là, et qu'encore une fois, ils étaient, comme nous tous, dans l'inquiétude un peu, mais surtout dans l'absence de réponse à donner aux jeunes. On disait, oui, mais votre travail, c'est la vie quotidienne. Oui, mais dans la vie quotidienne, il y a la relation avec les jeunes au quotidien, justement. Et tous les jours, quand il y a 25 jeunes qui disent « quand est-ce qu'on part ?», et que toi, l'adulte qui est responsable, tu ne peux rien dire du tout, ça met l'équipe dans une situation un peu difficile quand même. D'être là sans pouvoir dire quoi que ce soit, sans pouvoir rassurer les jeunes aussi. Notre travail, c'était aussi celui-là, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pris. On n'en veut à personne, bon, peut-être un peu à ceux qui ont pris cette décision-là un peu trop rapidement. On se dit que peut-être que les choses auraient été différentes si on avait eu un peu de temps de préparation. Là, on a, comme je te disais au départ, là, on a appris à 10h du matin qu'ils allaient arriver en pleine nuit, et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à savoir comment on allait travailler, qu'est-ce qu'on allait faire, quelle réponse on aurait à donner, est-ce qu'on était des travailleurs sociaux ou est-ce qu'on était des animateurs, est-ce qu'on aurait vraiment des réponses claires à donner aux jeunes, ou est-ce qu'on était là juste pour assurer la vie quotidienne. On a bien compris rapidement qu'on était là pour ça, pour assurer le quotidien, la prise en charge, des soins, l'alimentation, les activités éducatives, etc. Mais on ne peut pas empêcher l'équipe qui est là de se dire « mais quand est-ce que les choses vont bouger ? Est-ce que quelqu'un va pouvoir nous assister, nous aider et donner des réponses aux jeunes ? Si ce n'est pas nous qui les donnons, peu importe. » Et ça a été difficile. Et puis surtout, on s'était dit qu'un traducteur aurait dû être présent dès l'accueil. Être présent au quotidien, c'est un peu ce qu'on nous avait dit. Et les seuls traducteurs qu'on a eus, c'est ceux qu'on a pu trouver par notre réseau de relations en tout genre. Et ça nous a manqué aussi beaucoup. Expliquer à des jeunes, sans être persuadé d'être compris en anglais, que c'est pas parce qu'on veut pas donner de réponse, mais c'est parce qu'on en a pas. C'est compliqué quand on n'est pas sûr d'être compris en anglais. Et la présence d'un traducteur en langue arabe régulièrement a quand même été un bon soutien pour nous.
Si la pluie en torrent tombe sur les genêts, si le brouillard descend à l'oreille des forêts, si ta route se perd, si tu es fatigué, si le vent de l'hiver souffle dans la vallée. Étranger, étranger, viens frapper à notre porte. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens, si tu n'as pas trouvé de ruisseau en chemin, si l'eau n'a pas coulé dans le creux de tes mains, si la faim te poursuit comme une louve avide dans le froid et la nuit, si ta besace est vide. Étranger, étranger, viens t'asseoir à notre table. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Si tu veux raconter la douceur de chez toi, si ton cœur veut chanter des refrains de là-bas, ou si plus simplement tu ne veux que te taire et regarder longtemps le feu et sa lumière. Étranger, étranger, reste encore pour la veillée. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Mais viens, nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens.
Dissonance.
Laurent Garraud sur Radio Centrafrique. Nous sommes fin janvier et nous joignons Laurent par téléphone. Un horizon s'ouvre-t-il pour ceux qui restent ?
Quatre d'entre eux sont partis à Wolems, dans une petite maison attenant à un centre de soins, avec une chambre, quasiment une chambre chacun, un coin cuisine. Voilà, de quoi passer du temps libre là-bas sur place, et après une équipe de travailleurs sociaux en charge de les suivre, de les accompagner sur les différentes démarches. Et on a la chance d'avoir des gens également qui étaient bénévoles chez nous, et notamment un qui donnait des cours d'anglais et qui s'est déjà proposé pour aller les rencontrer et continuer les cours d'anglais sur leur lieu de vie, sur leur nouveau lieu de vie. Ensuite, deux d'entre eux sont à Rodez, en centre-ville, dans un foyer de jeunes travailleurs, enfin un service spécialisé qui fait partie du foyer des jeunes travailleurs. Et ensuite, on en a six qui sont à Sainte-Afrique, au centre social. Et je sais qu'ils sont dans des logements HLM qui sont gérés par le centre social. Alors tout ça, c'est des situations provisoires, hein, puisqu'une bonne partie d'entre eux sera majeure d'ici pas très longtemps. Et que du coup les équipes en place sur ces différents lieux sont en charge de suivre les dossiers de demande d'asile pour ceux qui ont déjà demandé, ou les initier avec ceux qui ne l'auraient pas encore fait.
D'accord, donc l'objectif pour eux c'est là maintenant rester en France avec un droit d'asile.
Avec un droit d'asile, puisque sinon ils se retrouveraient à leur majorité sans papier, sans titre de séjour, et donc potentiellement, je pense, expulsable très rapidement.
Dissonance.
Laurent Garraud, sur Radio Centrafrique.
Après ces trois mois d'accueil d'enfants migrants dans ton centre, quel est le bilan que tu en tires ?
Je suis un peu partagé, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on avait à faire précisément, on nous avait dit, vous êtes là, les jeunes vont être mis à l'abri, votre mission c'est de les accueillir, de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des activités éducatives, voilà, une alimentation correcte, etc. Ça évidemment c'est relativement simple, donc ça on a pu le faire. Après on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus. Peut-être qu'on aurait pu faire plus si on avait été mieux préparé à cet accueil-là. peut-être que les situations un peu difficiles qu'on a vécues, encore une fois, si on avait été un peu mieux préparé, encore une fois, on aurait peut-être pu travailler différemment. Globalement, ça s'est quand même super bien passé. On a 25 jeunes qui sont repartis maintenant. Tous sont super contents du séjour qu'ils ont passé chez nous. Nous ont mille et une fois remerciés pour ce qu'on avait fait pour eux, même si leur attente n'était pas d'avoir des activités éducatives. Leur attente était unique, je l'ai déjà dit, c'était nous on veut partir en Angleterre. Et c'est ce qui nous a mis des fois en difficulté, puisqu'on n'avait pas de réponse nous à apporter. Après, humainement, ça a été hyper riche, on a vécu des moments de folie avec eux, de rigolade, avec des animations musicales notamment, où on sentait que les jeunes étaient enfin, au bout, à peu près, je pense, au bout d'un mois, étaient redevenus des enfants, des adolescents, et plus des pseudo-majeurs, ou en tout cas des enfants qui vivaient comme ont vécu leur famille, des situations de conflit, des déplacements, voilà, il y a beaucoup de migrants adultes aussi. Là, c'est des enfants, et quand ils sont arrivés, on avait vraiment l'impression qu'on avait affaire plus à des adultes quasiment, ou en tout cas des jeunes hyper matures, qui avaient tellement vécu de choses difficiles, qu'ils avaient oublié, peut-être à un moment donné, qu'ils étaient quand même des enfants. Et le fait d'être posé à Bonsala, alors, à mon avis, a permis ça un peu, et puis aussi parce qu'on leur a proposé plein de choses qu'on propose à des adolescents le reste du temps. On a fait le travail qu'on sait faire avec des ados d'habitude. Ça, je pense, ça leur a permis de se poser vraiment. Ça a été un petit peu long, mais une fois qu'ils ont su que l'Angleterre, c'était quasiment terminé pour eux, on a eu affaire à des adolescents avec des demandes d'adolescents, des attitudes d'adolescents, avec « non, je suis pas d'accord avec ça » ou « j'aimerais bien ça », etc., etc. Et là, on s'est dit qu'on avait encore peut-être plus réussi notre coup, parce que, voilà, encore une fois, la mise à l'abri, c'était facile. On n'en a rien fait pour ça. Ils nous ont été amenés, on avait un logement, ils étaient à l'abri, ils étaient nourris, logés, etc. La réussite, à mon avis, c'est celle-ci, c'est d'avoir pu permettre à ces jeunes de retrouver un peu un statut d'adolescent et non pas d'adultes qui ne sont pas de toute façon, et on le voit bien là, maintenant qu'ils sont partis, on est toujours en contact avec eux, et ils ont toujours des demandes qui sont des demandes d'ados, c'est voilà, est-ce que tu peux me trouver une batterie pour mon téléphone, est-ce que tu peux, voilà. On se dit que finalement, ce qu'on a entre guillemets souffert des fois d'une situation difficile par l'absence de réponse administrative, on est passé par-dessus ça, et on leur a permis de... Voilà, de retrouver une âme d'adolescent. Et je pense que ça, on peut être un peu fier de ça, je pense. Tout a été fait pour que les jeunes puissent avoir des réponses. La meilleure réponse possible face à la situation. Et ensuite, maintenant que les jeunes sont effectivement répartis en France ou dans l'Aveyron pour certains, entre Sainte-Afrique, Olemps et Rodez, on espère pour eux que la situation va évoluer positivement, que la demande d'asile va aboutir, parce que la demande c'est une chose, l'obtenir c'est souvent plus compliqué, et on sait bien que pour l'instant c'est assez difficile d'obtenir des papiers quand on est étranger. On espère que ça va marcher pour eux parce qu'ils sont mineurs et qu'il y a quand même une obligation de protection. Mais pour certains, ils sont plus mineurs pour très longtemps. Donc s'ils n'ont rien demandé, que se passe-t-il pour eux si à 18 ans, ils n'ont pas demandé l'asile? Est-ce qu'ils continuent à être pris en charge? Ou est-ce qu'on leur dit pas de papier, retour au pays? Ça, j'ai pas de réponse à ça. On est quand même confiant parce qu'on ne les envoie pas dans la nature, on les envoie avec des équipes de travailleurs sociaux habitués à accueillir des populations en difficulté. Donc on espère que ce qui a été entamé chez nous va se poursuivre et que ces jeunes vont pouvoir accéder, puisqu'ils restent en France pour l'instant, accéder à l'école, pouvoir apprendre un métier et pouvoir ensuite vivre là où ils ont envie de vivre, en Angleterre ou ailleurs, peu importe. Mais on espère vraiment que ça va se faire et que tout ce qu'on a entendu, que ils pourront aller à l'école, ils pourront faire ci, ça, que ça va se faire vraiment. J'ai plutôt confiance, et en même temps, je m'inquiète un peu, parce que l'avenir en France n'est pas forcément rose, peut-être, pour des populations étrangères. Voilà, j'avoue, je suis un peu partagé. Je suis plutôt de nature confiante, donc je me dis que ça va marcher pour eux. Et puis surtout, j'ai confiance en eux parce qu'ils ont quand même bataillé beaucoup pour arriver jusqu'à Calais. Ils ont souffert beaucoup et ils s'en sont sortis à Calais. Ils sont arrivés à Pont-de-Salah, ça n'a pas été facile, mais etc., etc. Donc je pense qu'eux ont la volonté de s'en sortir. Pour certains, c'est clairement, ils l'ont clairement annoncé. Leur volonté de s'en sortir est quand même assez impressionnante. D'être parti du Darfour, d'avoir traversé la Libye, l'Italie, dans des conditions qu'on n'ose même pas imaginer, et dont ils nous ont peu parlé d'ailleurs, je pense que ça forge un peu le caractère. Malheureusement, leur motivation est, à mon avis, beaucoup plus importante que peut-être une majorité de gens qui vivent un peu plus dans le confort. Eux, ils n'ont pas connu de confort, ils ont plutôt connu la guerre, la misère, la galère. A priori, de ce qu'on a vu, ça leur a servi, ou en tout cas ça leur a donné une motivation pour s'en sortir. La preuve, c'est qu'ils étaient aussi prêts à repartir sur les routes. Alors je sais pas si c'est une preuve, mais en tout cas ça montre bien que ils sont prêts à tout pour y arriver. Et à mon avis, quand on est en difficulté, mais qu'on est motivé, peut-être on peut s'en sortir, si tant est qu'évidemment l'environnement administratif, etc., puisse faciliter ça. Voilà, mais voilà, plutôt confiance dans leur avenir. Même si ce ne sera pas facile pour tous, parce que pour certains, ils vont partir de zéro dans l'apprentissage de la langue, etc., que je n'ai pas du tout d'idée de leur niveau de scolarisation préalable, qui était plutôt réduit à l'apprentissage du Coran et non pas de matières différentes comme on peut avoir une scolarité en France, nous. Donc ça sera sûrement difficile pour eux. Mais voilà, j'ai encore confiance pour l'instant.
Merci beaucoup, Laurent.
Dernière minute, joint par téléphone, Laurent nous apprend que sur les 6 jeunes qui étaient à Sainte-Afrique, 2 sont partis vers d'autres centres en France et 4 ont rejoint leurs camarades à Rodez avant de repartir tous sur les routes vers l'Angleterre.
Au total, sur les 25 enfants accueillis en novembre 2016, 10 sont rentrés de manière officielle en Angleterre. Un est en Belgique, un autre aux Pays-Bas, 3 sont en région parisienne, 3 sont dans d'autres centres d'accueil en France, 4 sont revenus à Calais pour tenter à nouveau de traverser la Manche. 2 y sont déjà arrivés par leurs propres moyens et un seul est resté en Aveyron avec le désir de s'y établir pour demander le droit d'asile et obtenir ensuite les papiers officiels qui lui permettraient de vivre et de travailler en France.
Sur un total de 1934 personnes mineures ayant quitté Calais pour des centres d'accueil fin octobre 2016, seuls 468 ont été acceptés par le Royaume-Uni. En mars 2017, entre 300 et 400 migrants sont toujours à Calais.
Ce retour à la case départ est-il négatif ?
Pour Laurent, les 3 mois passés en Aveyron leur ont au moins permis de se retrouver dans leur état d'enfant, d'être sécurisés, de souffler un peu dans leur long périple vers la liberté et la dignité, périple qui est loin d'être terminé.
Merci à Laurent, Françoise et tous les autres animateurs de ce centre d'accueil de Pont-de-Salar pour leur belle leçon d'humanité. La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Ils sont petits tas taiseux sur la table, à l'entrée, bien alignés les uns à côté des autres, au cordeau, propre sur eux, dans la sobriété du graphisme qui les pare. Empilés les uns sur les autres, dans une rectitude républicaine, au carré, en bon ordre. Dans l'ordre doux du classement, qui dit tout de l'innocuité qu'il y a à s'en saisir. On les effleure du regard, on les caresse d'un souhait, on les tâte, on les palpe, on hésite. On en pince un, enfin, un parmi tous, entre le pouce et l'index, pour lui faire quitter le bel ordonnancement de la mise en scène d'accueil. On écarte le rideau de l'isoloir, on entre dans l'isoloir, on laisse retomber derrière soi le rideau de l'isoloir. On y est. Dans la solitude du devoir citoyen. Avec un froissement, peut-être fébrile, peut-être fluide, on le plie et on le glisse dans l'enveloppe réglementaire. Bleu, l'enveloppe. C'est fait. On ouvre le rideau de l'isoloir, on sort de l'isoloir, on laisse retomber derrière soi le rideau de l'isoloir. On s'avance jusqu'aux tables derrière lesquelles patientent les assesseurs. On présente sa carte d'électeur. On s'approche du réceptacle qui lui est destiné. On tend sa main, peut-être tremblante, peut-être assurée, et on le lâche dans l'ouverture étroite. On le regarde voleter jusqu'au fond de l'urne où il se mêle aux autres qui y reposent déjà en un tas désordonné. « À voter !» clame l'assesseur. Et là, on se dit que ça risque vraiment d'être la merde.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez les références des sons, des poèmes, des musiques et des chansons entendues, ainsi que des liens qui complètent cette émission. Cette émission sera rediffusée lundi 27 mars à 20h et mercredi 29 mars à 11h.
A esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño. mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.